Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Sa mort a touché de nombreuses personnes qui n'avaient pas lu ses livres. Et puis, ils ont découvert l'un d'eux au moins, Éloge du risque ou Anne Dufour-Montel, essaie de se demander ce que signifie risquer sa vie. Est-ce nécessairement affronter la mort et survivre ? Ou bien y a-t-il logé dans la vie même un dispositif secret, une petite musique à elle seule capable de déplacer l'existence sur cette ligne de front qu'on appelle le désir ? Comment ne pas s'interroger sur ce que devient une culture qui ne peut plus penser ce risque sans en faire un acte héroïque, une pure folie, une conduite déviante ? Le 21 juillet 2017, dans l'après-midi, les conditions météo étaient très mauvaises à Pamplonne, sur la commune de Ramatuelle, dans le Var. Le vent d'est soufflait très fort, détail France 3, avec de fortes vagues. D'abord orange, poursuit la chaîne, le drapeau est rapidement devenu rouge et la baignade interdite. Deux enfants étaient déjà partis se baigner. Les voyant en difficulté, se battant avec les éléments, Anne Dufour-Montel est allée à leur secours en nageant. Elle s'est jetée à l'eau et a secouru l'un d'entre eux. La philosophe et psychanalyste qui avait un souffle au cœur n'a pas survécu à cet effort intense. Les deux enfants ont été sauvés. Était-ce une folie, un acte héroïque, une conduite déviante ou un risque normal que chacun aurait pris ? Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, Louis et Lolita se sont aussi jetés à l'eau et se posent les mêmes questions. Un reportage d'Olivia Muller.
Je m'appelle Louis, j'ai 24 ans, je suis électricien dans le bâtiment et je fais partie de la station de sauvetage de Fécamp. J'ai grandi à Fécamp, dans une famille unie et très heureuse, avec mon père, ma mère et un petit frère qui a 20 ans. Je suis pas né à Fécamp, je suis né au Havre. C'est peut-être mon plus grand regret d'ailleurs d'être pas né à Fécamp. C'est toute ma vie Fécamp. Ma vie c'est autour du port. Le moindre bateau, je connais n'importe quel chalutier, je connais le nom. Je pourrais passer ma journée sur le phare à regarder les chalutiers rentrer. Je me sens bien au port depuis que je suis tout petit, parce que depuis tout jeune, mon père, qui est pêcheur plaisancier, j'ai toujours été avec lui à la mer. La première fois que je suis monté à bord d'un bateau, j'avais 6 mois. Donc, par la petite anecdote, mon père, il faisait refroidir mon biberon en le trempant dans le bassin. Donc tu vois, l'eau de mer, depuis tout jeune, je connais par cœur. Tout petit, je voyais le canot sauvetage, c'était le bon Dieu qui arrivait sur terre. Et en fait, je me suis retrouvé à vouloir m'engager à la station SNSM de Fécamp. Donc à l'époque, le président, c'était Nicolas, pharmacien juste là sur le quai. Et il m'a dit, le souci, c'est que t'es encore trop jeune, t'as 15 ans. Donc tout de suite, on peut rien faire pour toi. Reviens me voir quand t'auras 16 ans. Du coup, le jour de mes 16 ans, je suis revenu le voir. Et là, il m'a dit, premier dimanche d'avril, tu viens à la station. Et je vais te présenter l'équipage. Puis c'est comme ça que je suis arrivé là. La première fois que je me suis retrouvé à la station, j'appréhendais pas mal parce que moi, je me suis dit, on se retrouve dans un monde d'adultes. La moyenne d'âge à la station, ça devait être entre 35-40 ans et 75 ans. Donc oui, quand t'arrives dans un monde comme ça et que t'as 16 ans, t'écoutes et puis après, avec le temps, c'est eux qui t'écoutent. Non, je rigole. Du coup, de mes 16 à 18 ans, je faisais pas d'intervention parce qu'il fallait que je sois majeur. Donc je faisais toutes les sorties cendres, dispersion de cendres, les exercices, toutes ces petites choses-là. À mes 18 ans, je suis rentré canotier opérationnel. Et ensuite de ça, j'ai passé mes permis, côtier, hauturier. Et à mes 22 ans, j'ai passé mon SNB1. Donc c'est sauveteur-nageur de bord. C'est un peu le couteau suisse à bord. Donc cette période, de mes 16 ans jusqu'à mes 22 ans, ma vie, elle était complètement partagée entre ma vie professionnelle d'électricien, ma vie personnelle et la SNSM. Mais en fait, sur cette vie-là, c'était souvent la SNSM qui prenait le dessus. Parce que t'es au travail, ça bip, faut que tu partes. Tu fais une petite soirée avec tes potes ou tu vas avec ta copine au restaurant, n'importe. Ça bip, il faut que tu partes. Un jour, le 18 juin 2022, je vais manger à la station chez un des canotiers qui s'appelle Jean-Luc. Le temps était super beau, hein, soleil, tout ça. Et on se retrouve à un moment avec du vent qui se lève. On voit un nuage d'orage hein, arriver. Et le téléphone était posé sur la table. Et d'un seul coup, bah, ça sonne. Je monte dans la voiture, je descends à la station. Les autres gars de la station arrivent, donc le mécano, le patron, les canotiers. On se retrouve à bord et là, le patron nous dit « Bah les gars, ça va être rapide. On va chercher un voilier qui est devant Fécamp en détresse. Des voiliers en rade devant Fécamp, c'est des trucs qu'on connaît et qu'on sait faire. » Donc, banal, intervention banale. Quand on arrive, on se présente sur le côté du voilier. Un voilier bleu d'environ 9 mètres. On savait qu'il y avait deux personnes à bord. Mais nous, déjà, quand on fait nos tours de reconnaissance, on voit qu'une personne qui était assise à l'arrière avec la barre dans les mains. Donc, on essaie d'établir un peu la communication en criant et aucune réaction. Même pas regarder vers nous. Enfin, du coup, on se dit, bon, bah là, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Au fil du temps, le vent forcit, la pluie arrive, les éclairs. Enfin, là, on tombe vraiment dans l'orage. On se retrouve avec des creux entre 2,50 m et 3 m. Le danger, c'était que le voilier se rapprochait de la côte. Par chez nous, à Fécamp, les falaises, c'est vraiment des murs. Et au pied, c'est que de la roche. On se retrouve avec un bateau qui vient taper des gros cailloux puis qui vient s'éclater sur le bas de la falaise. T'as peut-être une chance sur 100 de t'en sortir. Le bateau, ils avaient les voiles d'arraché. Et à un moment, je dis au patron, bah écoute, moi j'y vais. En disant j'y vais, c'était de passer du canot de sauvetage à bord du voilier. Et en fait, le patron me dit, non, t'y vas pas, c'est beaucoup trop dangereux. Et en fait, bah t'avais pas tellement de solutions. T'avais 2 heures pour réagir, quoi. Il faut que t'imagines le bateau, le canot de sauvetage qui est en haut de la vague, le voilier qui est dans le creux de la vague. T'as presque 6 mètres de différence. Le patron me dit, bah écoute, on n'a pas le choix, on essaye. Je cours sur le pont. Et en fait, le voilier vient taper. Je me jette par-dessus la rambarde. Et moi, je me retrouve à bord du voilier. Là, je lève la tête. J'arrive couché. Et je rampe, tant bien que mal, pour aller à l'arrière. Et là, en fait, du coup, je vois ce monsieur qui avait pas changé. Aucune réaction. Mais vraiment aucune. Il tenait sa barre et il était agrippé. Mais sans bouger. Et en fait, je tourne la tête et je vois la... Du coup, je pense sa compagne qui était à l'intérieur dans la cabine. Je lui dis, voilà, madame, c'est les sauveteurs en mer. Une dame pas spécialement affolée, ouais, elle est restée calme du début à la fin. C'est des Mexicains. Le monsieur parlait pas français. Et la dame, ouais, parlait français. Je lui dis, surtout, vous bougez pas d'où vous êtes. Je leur fais mettre leur gilet de sauvetage. Le canot arrive. On lance leur remorquage. Du coup, on commence à s'éloigner tranquillement de la côte. Et au bout de 10 minutes de remorquage, on prend une vague, mais un truc monstrueux. Et en fait, là, sur le voilier, tout s'arrache. Donc ça embarque l'ancre. Ça arrache une partie de la rambarde. Donc moi, je me suis retrouvé projeté en arrière. Et là, en fait, on voit tout qui part. On voit la chaîne qui se déroule, ça fouette, ça fait du bruit, ça fume, parce qu'évidemment, la chaîne part n'importe comment. Tout ce qui est sur son passage, elle l'emmène. Et là, tu lèves les jambes en disant, mais faut pas que je me fasse embarquer. Là. Et là, je me dis, bon, bah là, on n'a plus rien. On se retrouve en pleine tempête. Impossible d'ouvrir les yeux, parce que la grêle, ça te fouette le visage, quoi. Donc, je me suis pris des paquets de mer, mais c'est hallucinant. Toi, au fond de toi, tu sais que t'as pas tellement de solutions. Mais tu dis, de toute façon, ouais, les gars du canot, ils sont là, on va retenter un truc. Et puis moi, à bord, je vais me débrouiller. Il y a toujours une solution, je vais me débrouiller. Et en fait, à ce moment-là, ce que je savais pas, c'était que nos sauvetages se retrouvaient plus que sur un seul moteur au lieu de deux. Et en fait, bah moi, je comprenais pas pourquoi le canot, pourquoi il revenait pas, quoi. J'essaie de les appeler par radio. Impossible de les avoir. Ma VHF, elle était HS. Et le souci, c'est que nous, on dérive. On se rapproche de la falaise. Avec le vent, avec le sens du courant, l'état de la mer, je savais qu'il restait à peu près 1 heure. Faut trouver une solution. Je demande à la dame, je dis, est-ce que vous avez du matériel, radeau de survie, fusée de détresse? Et en fait, non, ils avaient rien. Rien du tout. Donc là, la solution, bah, il n'y en a pas. Parce que tu vas pas te jeter à l'eau. moi tout seul, je l'aurais fait. Moi, j'ai la combi, j'ai le gilet, j'ai les palmes. Mais là, aller gérer deux personnes en pleine mer qui sont pas équipées pour aller dans l'eau par des creux de 3 mètres, c'était pas du suicide de le faire. Hein. Donc moi, j'étais parti de rester le plus longtemps possible sur le bateau. Donc là, on dérive pendant une bonne trentaine de minutes. Tu sais que quoi qu'il arrive, ça va mal finir. Mais en tant que sauveteur, tu peux pas te permettre de paniquer. Tu restes au calme. Eux, ils réagissent pas plus qu'avant parce que je pense qu'ils font confiance. Le canot de sauvetage est là, ils ont un sauveteur à bord. Y a pas de raison de s'inquiéter, quoi. En fait, c'était tout le monde qui avait un problème et tu sais que tu vas mourir. Parce que tu dis, de toute façon, tu vas finir sur le caillou. T'as personne qui va venir te chercher. Parce que l'hélico, il va patrouiller à ras de la falaise avec un tel vent. Donc, ça fait comme si on était allongé sur les rails d'un train puis qu'on attendait qu'il passe, quoi. Et en fait, à ce moment-là, le patron du canot de sauvetage de Fécamp, qui s'appelle Rémi, a lancé un appel au sémaphore en disant qu'il fallait du renfort. Et en même temps que le canot de sauvetage de Dieppe a été déclenché, ils ont aussi déclenché l'hélicoptère. Le dauphin de la marine nationale, Kebazou Touquet. Et là, en fait, je lève les yeux et je vois les deux petits feux clignotants qui sont sous l'hélico. Et je le vois passer. Donc là, je vais voir la dame. Je leur explique ce qui va se passer. On va devoir quitter le bateau, sauter à l'eau, être hélitreuillé. Donc je prépare les gens. Je leur resserre leur gilet. Donc l'hélico arrive. À ce moment-là, on commençait vraiment à se rapprocher énormément de la falaise. La dame donc, saute à l'eau, est récupérée par le plongeur. Je me retourne et en fait, là, je vois plus personne. Le monsieur était redescendu dans le voilier pour aller chercher son ordi et des effets personnels. Et là, j'ai peut-être été un petit peu brusque. Je récupère le monsieur, je le tire. Il a vite compris que fallait m'écouter et arrêter ses bêtises. Le plongeur redescend et en fait, j'ai poussé le monsieur à l'eau, quoi. Il a été récupéré par le plongeur et là, du coup, lui aussi commençait à s'élever dans les airs pour monter dans l'hélico. Et je me retourne, je vois la falaise, et là, en fait, là ça commence à déferler. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment dans les rouleaux des vagues. Donc, c'est les dernières vagues avant de finir sur le caillou. Donc là, j'ai décroché mes palmes, j'ai mis mon masque, j'ai fermé ma combi. Et en fait, à ce moment-là, je prenais la dernière vague qui me fait monter l'arrière du voilier. Je me retrouve à éjecter du voilier, et je me retrouve à l'eau. Et en fait, pendant ce court vol plané, j'entends le voilier qui s'explose sur la falaise. Et je me dis, écoute, nage tout ce que tu peux. Mais c'est impossible, hein. Tu crois que t'avances, mais t'avances pas. Hein. Et entre deux vagues, comme ça, je lève les yeux, et je vois le plongeur de l'hélico qui était en train de redescendre. Et j'ai continué, et à un moment, le plongeur est descendu. Je suis arrivé vers le plongeur, il m'a passé la petite sangle de treuillage. Et là, en fait, tu vois le voilier qui est couché dans la falaise, quoi, enfin, dans les cailloux. Enfin, l'hélico, il serait arrivé 5 minutes plus tard, c'était fini. Et là, du coup, on remonte dans l'hélico et on fait route vers l'hôpital du Havre. On voit le jour qui se lève. Il était 6h30 du matin. En revenant, on m'a dit, ça fait combien de temps? Je leur ai dit, ça fait 2 heures. Alors qu'en fait, non, j'avais passé toute la nuit en mer. Donc là, les gens ont tout de suite été pris en charge par les services hospitaliers. Donc ouais, ils me filent le fameux pyjama bleu. Et je me retourne vers les gens. Le monsieur, tétanisé, comme il était au début. La dame, je crois, elle est en train de prendre un café ou quelque chose. Le président de la station arrive. On y va, Louis. Donc moi, je me retourne, je vois les deux personnes avec qui j'avais vécu l'enfer. Je leur dis, passez une bonne journée, et puis au revoir. Puis voilà, je suis parti. Sans réaction de leur part, ils m'ont rien redit. Pas un merci, rien du tout. Mais je pense que ouais, pour eux, c'était normal, quoi. Et sur la route, le président de la station, c'est lui qui me dit à un moment, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? En fait, non, je m'en rendais pas compte. Et après, je suis rentré. Avec mon beau pyjama bleu, il m'a déposé du coup chez mes parents, puis je vais me coucher. le sauvetage de la Polonia, ça a été médiatisé et récompensé presque un an après. Ça, c'était la Marine nationale, le ministère des Armées. Ça, c'était la SNSM. Ça, c'est le bout de métal.
C'est une médaille de...
République française, et c'est écrit Marine marchande, courage et dévouement. Avec mon nom et la date 2022. Et ça, du coup, c'est quand j'ai reçu le prix de l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, par le secrétaire général de la mer. Moi, je ne m'attendais pas à avoir une médaille, je ne m'attendais pas à avoir tout ce que j'ai eu. En fait, là, tu prends conscience de l'ampleur des choses, et là, tu dis, mais en fait, c'est pas trop, mais... Enfin, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai juste fait mon devoir de sauveteur. Excuse-moi. Oh bah, c'est Rémi. Je vais pas après.
Tu peux répondre si c'est important.
Ouais, mon ami. Bah oui, je... Ah oui, mais attends, là, je suis pas là, là. Je suis occupé. Je te rappelle, parce que là, je suis en train de faire un truc, je te rappelle. Ouais, à tout à l'heure. C'est Rémi, c'était le patron qui était là, à la Polonia. Lui, c'est un marin pêcheur. Qui a navigué sur les mers du Nord, qui a navigué partout. Tu connais un peu le caractère des marins pêcheurs. Et lui, ce jour-là, il s'est mis à pleurer à bord. Et on est revenu le lendemain, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, il s'est mis en pleurant dans mes bras, j'ai dit, j'allais jamais te revoir. Et le jour de la Polonia, il a vidé son casier. Il a dit, c'est fini, maintenant je m'en vais. Il a dit, la Polonia, c'est ma dernière intervention. Et je pense qu'il voulait partir sur une bonne note. Et ouais, en fait, cette intervention-là, c'est pas spécialement mon intervention, mais c'est le sauvetage de l'équipage qui était présent et c'est l'équipage de toute la station. Et je pense que cette histoire-là va me suivre... Quoi qu'il arrive, elle me suivra toute ma vie.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Lolita Namouric. J'ai 35 ans. J'habite en Eure-et-Loire. Et je suis originaire de Bretagne. Je considère que j'ai eu plutôt une enfance heureuse. Hein. J'ai un petit frère de 5 ans de moins que moi. Mes parents ont toujours été là, et j'ai toujours eu cette relation avec ma mère. Je pense que je pouvais tout lui dire, hein, même adolescente. Donc oui, forcément, ça forgeait aussi ce que je suis devenue actuellement, ce que je suis à 35 ans. Alors, quand j'avais 25 ans, mes parents m'ont demandé si je voulais venir en bateau avec eux, parce que mon père était bénévole sur une grande course au large, la Volvo Ocean Race. C'est une très grande course internationale de voile. Donc ce jour-là, sur le bateau, il y avait mon père et son ami, et puis ma mère et moi. Mon père et son ami ont commencé leur rôle, hein, à aller parler aux spectateurs qui s'approchaient un petit peu trop de la zone de course. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, derrière nous, il y avait un très très gros bateau. Alors ça nous interpellait parce qu'on n'avait jamais vu un bateau de cette taille-là. On a su après que c'était le plus grand trimaran du monde. Et tout d'un coup, en fait, moi j'ai entendu un très gros bruit, je me suis retournée et j'ai vu quelque chose vraiment d'énorme en face de moi. J'arrivais même pas à savoir ce que c'était tout de suite. Moi, mon premier réflexe, ça a été de me jeter sur le plancher du bateau. Et une fois que c'était passé, je me suis relevée et là j'ai entendu mon père crier « Maman est plus là, maman est plus là ». Et j'ai regardé sur la banquette, parce que c'était là que ma mère était assise. Et effectivement, elle n'était plus sur la banquette, et j'ai vu que la banquette était complètement déchirée. Et là, j'ai commencé à regarder tout autour, et j'ai vu ma mère dans l'eau. À quelques mètres du bateau, dans l'eau, il y avait beaucoup de sang autour d'elle. Et moi, ce qui m'a inquiétée, c'est surtout que... Elle était retournée, en fait, la tête dans l'eau. Son gilet de sauvetage la maintenait à l'envers. Là, je savais que s'il restait un petit peu dans cette position, c'était la noyade assurée, quoi. Donc tout de suite, j'ai regardé mon père et son ami. J'ai vu qu'ils étaient complètement pétrifiés, complètement figés. Ils n'ont pas réussi à réagir. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, parce que ça se passe tellement vite. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu dans cette position, j'ai vu que personne ne réagissait, et donc j'ai sauté à l'eau. Je l'ai retournée dans l'eau pour voir si elle était consciente. Et elle était consciente. Elle avait les yeux ouverts. Alors, elle était clairement en état de choc, mais elle bougeait les yeux et elle avait l'air de répondre à mes sollicitations. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Je l'ai surtout bougé un petit peu en disant « Maman, est-ce que tu m'entends ? Regarde-moi, est-ce que ça va ?» Là, le fait qu'elle soit consciente, pour moi, c'est presque comme si elle avait rien. Je me souviens surtout de lui parler, essayer de la rassurer, lui dire que nous, on n'avait rien, que mon père n'avait rien. Après, j'ai bien vu les dégâts que l'accident avait fait, parce que j'ai vu aussi l'état de ses jambes. Oui, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai peut-être percuté la gravité de l'accident, parce que en la tenant, là, je me suis rendu compte que vraiment, j'étais dans une mare de sang. En fait, elle s'est pris le safran. Donc le safran, c'est une sorte de grand triangle qu'il y a sur les trimarans qui permettent de diriger en fait le bateau. Et c'est cette partie-là qui est passée en fait sur les jambes de ma mère. Et donc en passant, ça lui a coupé les deux jambes. C'est une image que je garde encore. Mais là, effectivement, j'ai réalisé que ça allait être très très compliqué. Il y a les sauveteurs, les médecins de course qui arrivent avec leur bateau et un bateau de la SNSM, donc les secours en mer. Le bateau des médecins de l'organisation ont tout de suite pris en charge ma mère. Moi, on m'a fait monter sur le bateau de la SNSM. Mon père, lui, est resté sur le bateau, donc notre bateau. Donc on a été séparés en fait pendant cet accident. Moi, j'avais beaucoup d'informations avec les secouristes et c'est vrai que je voyais mon père faire des grands gestes sur le bateau. Et lui n'avait aucune idée de dans quel état était ma mère. Donc je pense qu'il a dû beaucoup paniquer. Potentiellement, il s'est dit que ma mère était morte. Moi, je le savais qu'elle était vivante et je voyais en fait le bateau sur lequel était ma mère. Je voyais qu'il y avait énormément de monde autour d'elle, que c'était vraiment la panique. Et puis, on s'est tous retrouvés à l'hôpital, où ils nous ont expliqué que ma mère était déjà arrivée donc, par hélicoptère et qu'elle était déjà en opération, que de toute façon, l'opération elle a duré très très longtemps. Je crois qu'elle a duré 7 heures. Et on a été pris en charge par une cellule médico-psychologique. On savait que c'était grave, mais on n'avait pas plus d'infos que c'est grave. Et donc, comme on n'allait pas attendre 7 heures à l'hôpital, on est rentré chez nous. Donc l'hôpital appelle et nous annonce que l'opération s'est très bien passée. Qu'ils ont essayé de réparer l'une des jambes autant que possible. L'autre jambe était beaucoup trop abîmée, donc ils l'ont amputée. Sauf qu'ils nous disent que dans l'accident, forcément ma mère a perdu beaucoup de sang. Donc elle est dans le coma. Donc on pourrait venir la voir, mais que pour l'instant, elle est dans le coma. Et au final, elle s'est réveillée 3 jours plus tard. Dès qu'on a eu l'information que là, elle était réveillée, on a tous accouru à l'hôpital. Et je me souviens que quand on est rentré dans la chambre de réanimation, elle souriait. Elle était juste contente, en fait, de nous revoir. Et une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est « Moi, je suis surtout contente que toi, t'es rien. » Ma mère est restée assez longtemps à l'hôpital. Ensuite, elle est partie en centre de rééducation. Et puis, ma mère est en fauteuil quasiment tout le temps. Et mon père, de son côté, c'est très difficile à vivre parce que il y a des moments où elle a mal, il y a des moments où elle a des coups de déprime. Donc voilà, il faut aussi être là pour la rassurer. Et puis, je pense qu'il y a eu peut-être ce côté un peu culpabilité de ne pas avoir fait plus le jour de l'accident. D'autant plus que y a eu un procès pour savoir un petit peu ce qui s'était passé. Et le skipper adverse, en tout cas ses avocats, qui ont émis l'idée que en fait, l'accident aurait été causé par mon père. Ils partaient du principe que nous, on avait avancé sous leur bateau pendant qu'ils se déplaçaient. Et nous, en fait, sur le moment, notre bateau, il était à l'arrêt. Ceux qui ont perdu beaucoup de choses dans cette histoire, c'est nous. Et en plus, c'est nous qu'on vient attaquer en plus. C'est dégueulasse. Il y avait aussi des rumeurs dans la ville dans laquelle on était sur... tout le monde avait un petit peu son mot à dire sur qui était le coupable, qu'est-ce qui s'était passé le jour de l'accident. Donc ma mère était en centre de rééducation à plein temps. Donc il y a eu quand même une période où ma mère pouvait rentrer le week-end. Donc ce que mon père avait fait, c'est que il avait mis un Algeco comme sur les chantiers, hein, qui faisait sanitaire, donc douche, toilette, dans le jardin, donc juste en face de la porte d'entrée. Et comme ça, ma mère pouvait accéder donc à un espace douche et sanitaire et dormait après dans le salon, dans le lit. Mais c'était clairement pas vivable de cette façon. Donc pendant toute une période, on a été en phase de gros travaux pour faciliter autant que possible le retour de ma mère. Je suis retombée sur une photo de moi et mon frère pendant cette période-là où on voit le salon qui est entièrement vide et on est assis sur le lit médicalisé en train de regarder la télé. C'était vraiment un peu une période étrange. Mais par contre, à partir de ce moment-là, ma mère a pu revenir. Un jour, j'étais chez mes parents, je pars chercher le courrier. Il y avait une lettre à mon nom, il y avait un logo officiel, j'ai ouvert. Et là, mes parents, ils éclatent de rire. Alors, je ne le savais pas, mais il y avait un ami à eux qui avait fait la demande pour qu'on puisse me délivrer une médaille. Et effectivement, il y a eu une remise de médaille. Donc ce jour-là, on m'a remis la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement. Remise par le maire de ma ville, à dire « voilà, Lolita, vous avez sauté à l'eau, c'est héroïque, etc. » Puis voilà, j'ai bien vu que mes parents, ça leur faisait hyper plaisir. Ma mère, elle était, je crois même qu'elle a pleuré quand on m'a remis la médaille, mais on a rigolé en tout cas. Alors il y a eu deux procès. Il y a eu un procès au pénal et un procès au civil. Au final, sur ce procès pénal, la responsabilité du skipper qui pilotait le gros bateau a été reconnue. Ça a été reconnu que c'était 100% sa responsabilité. Et en fait, le skipper a pris contact avec ma mère et il a suivi sa rééducation. Ça a créé un lien entre ma mère et lui. Et donc, ils se sont mis à se donner des nouvelles, en fait, régulièrement. Et donc, lui, il s'est excusé auprès de ma mère.
C'était Se jeter à l'eau, un reportage d'Olivia Muller, réalisé par Éric Lancien. Merci à Lolita Le Namourik, à Louis Vasseur, à la SNSM de Fécamp et à la SNSM de Lorient. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue. Sébastien.